Historiette de Talmandereo, Ninon de l'Enclos. Ninon est fille de l'Enclos, un suivant de M. Delbeuf qui jouait fort bien du luth. Elle était encore bien petite quand son père fut obligé de sortir de France pour avoir tué Chabans, de façon que cela pouvait passer pour un assassinat, car l'autre avait encore le pied dans la portière quand l'Enclos le perça d'un coup d'épée. Durant son absence, cette fille devint grandette. Elle n'eut jamais beaucoup de beauté, mais elle avait dès lors beaucoup d'agréments. Et comme elle avait l'esprit vif, jouait bien du luth et dansait admirablement, surtout la sarabande, les dames du voisinage, c'était au Marais, l'avaient souvent avec elle. Saint-Étienne fut le premier qui lui en conta. Il avait de grandes libertés là-dedans. La mère croyait qu'il épouserait Ninon, mais enfin, ce commerce finit, non, à ce qu'on dit, sans la mettre à mal. Le chevalier de Raret en fut amoureux ensuite. On dit qu'une fois, qu'on ne voulait point qu'elle lui parlât, l'ayant vue passer dans la rue, elle descend vite à la porte et lui parle. Un gueux les incommodait fort. Elle n'avait rien pour lui donner. « Tiens, » dit-elle en lui tendant son mouchoir où il y avait de la dentelle, « allez, laisse-le en paix. » Cependant, Coulon poussait sa fortune, car il lui en voulait aussi. Je pense qu'il traita avec la mère au Ménilcolmuel, et Madame Coulon découvrit tout le mystère. Alors, toutes les honnêtes femmes, ou soi-disant, abandonnèrent Ninon et cessèrent de la voir. Coulon leva le masque et l'entretint tout ouvertement. Il lui donnait 500 livres par mois, qu'il a, dit-on, continué de lui donner jusqu'en 1650, 8 ou 9 ans durant, quoiqu'il fût bien arrivé des désordres entre eux. Au bijou, quelque temps après, fut associé à Coulon et contribua aussi de son côté. Le premier dont elle devint amoureuse fut feu M. de Châtillon, qui fut tué à Charenton. Il n'était alors qu'en de l'eau. Elle lui écrivit et lui donna rendez-vous. Il y va, mais comme c'était un inconstant, il la quitta bientôt. Elle, qui, comme vous verrez par la suite, était plutôt d'humeur à quitter qu'à être quittée, ne trouva point ce traitement insupportable et s'en plaignit à la Moussaie, qui fit leur paix et lui ramena le fugitif. On a dit, mais j'en doute, que pour s'en venger, elle avait bien voulu prendre du mal, et qu'elle l'avait si bien poivré, qu'il ne put être remis de longtemps. Il avait le sang fort subtil et gagnait aisément du mal. Cela lui sauva peut-être la vie, car s'il n'eût point été incommodé, devant servir sous le maréchal de Grammont, il eût été à la bataille d'Annecourt et sans doute eût payé de sa personne. Ensuite, elle eut des amourettes en assez bon nombre. On la servait par quartier. Quand elle en était lasse, elle leur disait « Allez, en voilà assez, cherchez fortune ailleurs. » Cependant, la subvention de Coulon marchait toujours. Sérigny, Rambouillet ont été de ses amants par quartier. Elle a eu un fils de Méret et un de Miessin. Un jour, au cours, elle vit que le maréchal de Grammont obligea un homme bien fait, qui passait à cheval, à se venir mettre dans son carrosse. C'était Navailles, qui n'était pas encore marié. Il lui plut. Elle lui envoie dire qu'elle serait bien aise de lui parler à la sortie. Bref, elle l'emmena chez elle. Ils soupèrent. Après, elle le conduisit dans une chambre bien propre, lui dit qu'il se couche et qu'il aura bientôt compagnie. Lui, qui était peut-être là, s'endort. Quand elle le vit ainsi, elle alla coucher dans une autre chambre et emporta les habits de ce dormeur. Le lendemain, elle s'en habille et, l'épée au côté, entre dans la chambre d'assez bonne heure en jurant. Ça va, il se réveille et il voit un homme qui veut tuer. « Ah, monsieur, dit-il, je suis homme d'honneur, je vous satisferai. Pas de supercherie, au nom de Dieu !» Alors elle éclate de rire. Comme Charleval la pressait de lui accorder ce que vous savez, elle lui dit « Attends mon caprice !» Ça a été son premier martyr. Jamais il n'en a pu avoir rien, non plus que Brancasse. Mais ce qui m'a le plus surpris, ça a été Feu Moreau, fils du lieutenant civil. Il était fort aimable. Elle l'a toujours bien voulu pour ami, mais il est mort sans en avoir reçu aucune faveur. On a distingué ses amants en trois classes. Les payeurs, dont elle ne se souciait guère, et qu'elle n'a souffert que jusqu'à ce qu'elle eût de quoi s'en passer, les martyrs et les favoris. Elle disait qu'elle aimait bien les blonds, mais qu'il n'était pas si amoureux que les bruns. En 1648, elle fit un voyage à Lyon. Les uns disaient que c'était pour se faire traiter secrètement de quelque incommodité, les autres par fantaisie. Elle disait que ce fut pour Villard, rondate depuis ambassadeur en Espagne, et qu'elle fit le voyage en poste comme un courrier, et point en chaise comme on a fait depuis. Elle était déguisée en homme. Elle disait que c'était à dessein de se retirer. En effet, elle se mit dans un couvent. Là, le cardinal de Lyon devint un peu amoureux de sa belle humeur et fit quelques folies pour elle. Un frère de Père Rachon en fut transpercé de part en part et sans lui demander, la pria de trouver bon qu'il la vit quelquefois et qu'il lui donna une maison qui pouvait bien valoir 8 000 écus. Mais comme après il en prétendait des choses qu'elle ne voulait pas lui accorder, un beau matin, car elle n'est pas intéressée, elle lui rendit sa donation. De retour, elle se met dans la tête de ne s'abandonner absolument qu'à ceux qui lui donneront dans la vue. Elle allait au-devant, le leur disait ou le leur écrivait. Elle eut Sévigny, tout marié qu'il était, 3 mois ou environ, sans qu'il lui en ait rien coûté qu'une bague de peu de valeur. Quand elle en fut lasse, elle le lui dit et mit Rambouillet à sa place pour 3 autres mois. Elle lui écrivit en badinant « Oh, je crois que je t'aimerai 3 mois, c'est l'infini pour moi. » Charleval, ayant trouvé ce jouvenceau, s'approcha de l'oreille de la belle et lui dit « Ma chère, voilà ce qui a bien la mine d'être un de vos caprices. » Depuis, on appelle ses passants ses caprices, et elle disait par exemple « J'en suis à mon 20e caprice. » pour dire à mon 20e galant. Durant sa passion, personne ne la voyait que celui-là. Il allait bien d'autres gens chez elle, mais ce n'était que pour la conversation, et quelquefois pour souper, car elle avait un ordinaire assez raisonnable. Sa maison était passablement meublée, et elle avait toujours une chaise fort propre. Vassé succéda à Rambouillet. Elle reçut de celui-là, parce qu'il était fort riche, il ne laissa pas de payer encore quand son temps fut fait. Mais comme au couloir et au bijou, il ne lui touchait que quand la fantaisie en prenait un ninon. Fourreau, gros gars, fils de Madame Larcher, qui n'a qu'un talent, c'est de se connaître admirablement bien en viande, était comme son banquier. Elle tirait sur lui des lettres de change. « Monsieur Fourreau, paiera, etc., etc. » On croit qu'il n'en a quasi rien eu. Elle disait qu'elle lui avait vu un javard tant elle le traitait de cheval. Charleval, un monsieur Delbène et Miossens ont fort contribué à la rendre libertine. Elle dit qu'il n'y a point de mal à faire ce qu'elle fait. Fait profession de ne rien croire. Se vante d'avoir été fort femme en une maladie où elle se vit à l'extrémité et n'avoir que par sa bienséance reçu tous ses sacrements. Il m'a fait prendre un certain air de dire et de trancher les choses en philosophe. Elle ne lit que Montaigne et décide de tout à sa fantaisie. Dans ses lettres, il y a du feu, mais tout y est bien déréglé. Elle se fait porter respect par tous ceux qui vont chez elle et ne souffrirait pas que le plus huppé de la cour s'y moquât de qui que ce soit qui fût. Coulon et elle se brouillèrent en 1650 parce qu'elle quitta le Marais pour le faubourg Saint-Germain où logeait au bijou. Feu le petit Moreau, fils de la lieutenante civile, en était alors furieusement amoureux. Il était devant elle comme devant la reine. Il payait, mais on ne sait s'il couchait avec elle. J'ai ouï dire à des voisins que son laquais lisait toujours le billet de son maître en rentrant chez la demoiselle et la réponse de la demoiselle après, en sortant. Elle disait un jour à Rambouillet « Dites-moi, un tel est-il beau ? Car j'ai grand besoin de ragoût. » Elle faisait cela assez en honnête personne, car elle n'en prenait jamais trop et ne se hasardait que rarement à devenir grosse. Le carême de 1651, des gens de la cour mangeaient gras chez elle assez souvent. Par malheur, on jeta un os par la fenêtre sur un prêtre de Saint-Sulpice qui passait. Ce prêtre alla faire un étrange vacarme au curé et, par zèle, ajouta, comme une vétille, qu'on avait tué deux hommes là-dedans, outre qu'on y mangeait de la viande tout publiquement. Le curé s'en plaignit au bailli, qui était un fripon. Ninon, averti de cela, envoya M. de Candale et M. de Montormar parler au bailli, qui leur fit civilité. L'été suivant, elle se trouva au sermon auprès d'une Madame Pupaget, femme d'un maître des requêtes. Cette femme prit grand plaisir à causer avec elle et demanda à Dupin, trésorier des menus plaisirs, qui elle était. « Oh, c'est Madame d'Argencourt de Bretagne qui vient plaider ici. » Il goguenardait sur ce mot d'Argencourt. L'autre le crut et dit à Ninon, « Madame, vous avez donc un procès, je vous y servirai. J'aurai la plus grande joie du monde de solliciter pour une si aimable personne. » Ninon se mordait les lèvres de peur de rire. Boisrobert, en ce temps-là, la salua. « D'où connaissez-vous cet homme ?» dit Madame Paget. « Oh, madame, je suis sa voisine, je loge au faubourg. Oh, je ne lui pardonnerai jamais de nous avoir quittés pour une Ninon, pour une vilaine. » « Ah, madame, dit Ninon, un peu déferré, il faut pas croire tout ce qu'on dit, c'est peut-être une honnête fille. » On en peut être autant dire de vous et de moi, la médisance n'épargne personne. » Et au sortir, Boisrobert, à bord de Madame Paget, lui dit « Vous avez bien causé avec Ninon. » Voilà la dame en colère contre Dupin et contre Ninon aussi. Cependant, elle l'avait trouvé si agréable que Dupin hasarda de mener Ninon dans le jardin de Thévenin, l'oculiste, à la porte de Richelieu, où le voisinage allait se promener. Madame Paget, qui est femme du neveu de Madame Thévenin, s'y trouva et elle causa encore avec Ninon. Un jour, quand on faisait la guerre à Boisrobert en présence de Ninon, qu'il aimait les beaux garçons, « Ah, vraiment, dit-il, il n'y a pas d'apparence de dire cela en présence de mademoiselle. »« Moquez-vous de cela, dit-elle, je ne suis pas si femme que vous penseriez bien. » Villarceau est le dernier galant qu'elle ait eu. Pour le voir plus facilement et n'être point à Paris, c'était en 1652. Elle alla dans le Vexin, chez un gentilhomme de qualité, nommé Marie Carville, qui est riche et fait bonne chère aux gens. Mais c'est un original et surtout en mangeaille, car il ne tâta rien qu'il ait eu vie, non point par aversion, comme un gentilhomme de Beauce, nommé d'Auteuil, qu'on n'a jamais vu tromper là-dessus, L'estomac lui soulève un continent, mais par vision. Ce Varie Carville ne croit pas grand-chose, non plus qu'elle. Un jour, ils s'enfermèrent tous deux pour raisonner. On leur demanda ce qu'ils faisaient là. « Nous tâchions, dit-elle, de réduire en article notre créance. Nous en avons fait quelque chose. Une autre fois, nous travaillerons tout de bon. » Un jour, Viarceau, dans sa grande passion, vit par sa fenêtre, car il logeait exprès vis-à-vis, qu'elle avait une bougie allumée. Il lui envoya demander si elle se faisait saigner. Elle répondit que non. Il conclut donc qu'elle écrivait à quelque rival. La jalousie le prend, il veut aller lui parler, et dans ce transport, croyant prendre son chapeau, il se met une aiguillère d'argent sur la tête, et de telle force qu'on eut bien de la peine à l'arracher. Elle ne le satisfit pas. Il tombe malade dangereusement. Elle en fut si touchée qu'elle se coupa tous ses cheveux, qui étaient très beaux, et les lui envoya pour lui faire voir qu'elle ne voulut point sortir ni recevoir personne chez elle. Oh, ce sacrifice fit cesser son mal. La fièvre le quitta aussitôt. Elle l'apprend, va chez lui, se couche dans son lit, et ils demeurent couchés ensemble 8 jours entiers. Elle a eu 2 enfants de Viarceau. On disait « Elle vieillit, elle devient constante. » Elle pouvait avoir 30 ans. 2 ans après, un grand garçon fort bien fait, nommé Desmousseaux, au retour de Suède, où la reine, sur sa bonne mine, avait fait capitaine de ses gardes, fit connaissance avec Ninon à la Comédie et l'alla voir. Elle était au lit. « Qui êtes-vous ? » lui dit-elle. « Vous qui avez la hardiesse de me venir voir sans introduction ?»«
Je n'ai point de nom, » répondit-il.
« D'où êtes-vous ? » ?»«
Je suis Picard. »
Elle hait les Picards.
« Où avez-vous été nourri ?»
En Candie.
Jésus, quel homme ! Mais ne seriez-vous point un filou ?
Pierrot, prenez garde qu'il ne me vole. Je ne sais pas qui vous êtes, il me faudrait un répondant.
Je vous donnerai boire, Robert.
Non, ce n'est pas ce qu'il me faut, ni à vous aussi.
Alors, je vous donnerai donc Roquelaure.
Oh, il est trop gascon.
Notez qu'il ne les connaissait que de vue. Mais quand j'aurais un répondant, qu'en serait-il ?
Oh, nous verrions, vous passeriez quelque temps ici, car je suis changeante. Pierrot nous servirait.
Mais je n'ai rien, dit-il, il me faut entretenir.
Combien voulez-vous ?
Oh, 1 pistole par jour.
Allez, dit-elle, je vous donne 40 sous.
Enfin, il se coupa, un homme à Rambouillet qu'il connaît.
Ah, dit-elle, je prends celui-là pour répondant.
Ils se séparèrent là-dessus. Depuis, ce garçon s'est donné à M. de Noailles. L'amourette de Viarceau donna bien du chagrin à sa femme. Boisrobert dit qu'un jour qu'il était allé à Viarceau, car Viarceau est son hôte à Paris, le précepteur de ses enfants voulut faire voir à Boisrobert comme ils étaient instruits. Il demanda à l'un d'eux
« Quis fuit primus monarca ?»«
Nemrod. »«
Quem virum abuit Semiramis ?»«
Ninum. »
Madame de Viarceau se mit en colère contre le pédagogue.
« Vraiment, lui dit-elle, vous vous passeriez bien de rapprendre des ordures. »
Et que c'était là méprisé que de prononcer ce nom-là chez elle. Viarceau, 1656, prit jalousie du maréchal d'Albret, qui n'ayant pu rien faire chez Guerchy, qui logeait vis-à-vis de Ninon, passa le ruisseau, et en compta à Ninon pour la 2e fois. Il se vantait hautement qu'il en était fait pour toujours. On verra dans les mémoires de la Régence la persécution que les dévots firent dans la pauvre Ninon et le reste de ses aventures. En 1671, elle s'est pris d'un garçon de ma connaissance. Un jour, comme ils étaient ensemble en carrosse, elle remarqua que ce jeune homme remarquait toutes les femelles qui passaient. « Eh, vous l'orniez bien !» lui dit-elle. Et en disant ceci, elle lui donne un grand soufflet. C'est qu'elle n'est plus jeune et qu'elle se défie de ses forces. Ce fut la maréchale de Gramont, prude, maligne, et de qui le maréchal, son mari, disait qu'elle donnerait 15 bisques à Belzébuth, qui fut cause que la reine-mère la fit mettre aux madelonnettes. Madame de Vendôme fit l'exécution. On l'accusait de jeter la jeunesse de la cour dans le libertinage. On alla dire après que tous les galants de la cour voulaient incendier la maison des Madelonnettes, et on y envoya le guet faire la patrouille autour toute la nuit. Une autre fois, on assura que des cavaliers fort dorés avaient pris d'une maison voisine la hauteur des murs du couvent. On en fit tant de bruit qu'il fallut l'ôter de là. Mais ce fut à condition de passer quelque temps dans un couvent à Lagny. Tant de gens l'y allèrent voir qu'elle retint tout l'hôtel de l'épée royale. Boisrobert y fut pour voir sa divine, c'est ainsi qu'il l'appelait. Il avait un petit laquais, et quand il fut parti, une servante dit à quelqu'un qui occupait la même chambre: « Monsieur, ne fera-t-on qu'un lit pour vous et pour votre laquais, comme à monsieur l'abbé de Boisrobert ?» Ninon lui en fit la guerre et lui dit: « Monsieur, je ne voudrais point des laquais. Vous ne vous y entendez pas, lui dit-il. La livrée, c'est le ragoût. » Un abbé qui se faisait appeler l'abbé de Ponce, grand hypocrite, qui faisait l'homme de qualité et était fils d'un chapelier de province, la servait assez bien. C'était un drôle qui, de rien, s'était fait 6 à 7 000 livres de rente. C'est l'original de Tartuffe, car un jour il lui déclara sa passion. Il était devenu amoureux d'elle. En traitant son affaire, il lui dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'en étonnât, que les plus grands saints avaient été susceptibles de passion, que saint Paul était affectueux et que le bienheureux François de Sales n'avait pu s'en exempter. Et cela me fait souvenir de la comtesse de Lassus, qui dans les derniers jours de sa vie devint amoureuse de Jésus-Christ. Elle se le figura comme un grand garçon, beau, de fort bonne mine. Ninon lui disant: oh, « Je crois qu'il est blond. » « Point, ma chère, vous vous trompez. Je sais d'original qu'il était brun. »